Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. La querelle des papes aura-t-elle lieu? Benoît XVI publie un livre contre l'ordination des hommes mariés, les autoriser à devenir prêtres. C'est une mesure que François envisage pour l'Amazonie où l'on manque de prêtres. C'est la première fois que l'ancien pape Benoît XVI sort de manière fracassante de sa réserve. À Lyon aujourd'hui, devait s'ouvrir le procès de l'expert Préna, jugé pour des agressions sexuelles sur mineurs. Procès reporté à cause de la grève des avocats, mais une ambiance très lourde déjà. Ce matin. La grève des avocats à Lyon, donc, et la mobilisation contre la réforme des retraites en est à son 40e jour. Va-t-elle baisser en intensité après les concessions du week-end, retrait de l'âge pivot? La droite pointe une réforme qui n'est pas financée. Dans ce journal encore, un deuxième département repasse à 90 km/h. La Seine-et-Marne, son président est notre invité. À propos de route, le fléau du téléphone portable au volant. Vous entendrez le témoignage d'un conducteur qui reconnaît faire n'importe quoi. Il est sur Snapchat, le réseau social en conduite.
Je regardais plus la route, je regardais le snap et tout d'un coup il y a eu un virage et je me suis retrouvé à aller à continuer tout droit alors que je devais être en train de tourner. Et je me suis retrouvé complètement sur la voie de gauche et je m'en suis même pas rendu compte.
Voilà, on l'entendra plus longuement tout à l'heure. C'est la première étape d'un rendez-vous quotidien aujourd'hui jusqu'au mois de mars dans ce journal, la campagne des municipales. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Nous irons à Lille. Quel est l'enjeu de l'élection à Lille?
Est-ce que Martine Aubry va repasser au premier tour ou est-ce que les écologistes vont lui savonner la planche?
Vous nous détaillerez tout cela et alors que tous les candidats se veulent écolo à Lille et ailleurs, dans les bobineaux de Thomas Legrand, nous entendrons le premier candidat écologiste à la mairie de Paris. C'était il y a plus de 20 ans. Que faire pour les décrocheurs scolaires? Des annonces cet après-midi à Matignon. Claire Chaudière nous en donne la primeur sur France Inter. À 13h30, ce sera la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Les Philippines en état d'alerte.
Oui, le volcan Taal aux Philippines et la menace d'une éruption explosive. Je reçois le volcanologue Patrick Allard qui va tout nous dire sur l'identité de ce volcan et sur les risques qu'il fait courir aux populations.
Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000, et l'émission ce sera à 13h30. Avant cela, quand un artiste sur Instagram dialogue avec des peintres impressionnistes, Isabelle Pasquier nous racontera. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Et voilà un effet très concret de la mobilisation contre la réforme des retraites dans un domaine qui n'a rien à voir. À cause de la grève des avocats, un des procès les plus attendus de ce début d'année est reporté de 24 heures. Le procès de l'ancien prêtre Bernard Préna, accusé d'agression sexuelle sur des mineurs, des enfants et ados de 7 à 15 ans pendant une vingtaine d'années, 71-91, lors de camps scouts. Il officiait alors dans la région de Lyon. 10 victimes et des associations attendaient ce procès. Il est donc reporté, Corinne Audouin. Dès ce matin, cela dit Corinne, on a pu mesurer à quel point l'ambiance serait tendue dans les jours à venir au tribunal correctionnel de Lyon. Votre reportage, Corinne.
Ils sont très nombreux, plus de 200. Les avocats lyonnais ont suspendu leurs robes noires le long des balustrades dans le hall du tribunal. À leurs pieds, les codes sont disposés pour former le mot SOS. Le barreau de Lyon est en grève contre la réforme des retraites. Dans la salle, le bâtonnier Serge Degas demande le renvoi du procès.
Nous sommes en grève totale. Cette grève concerne également le procès du père Préna, parce qu'on ne peut pas faire une exception. Symboliquement, c'est totalement impossible, même si, encore une fois, nous avons conscience de la difficulté et nous pensons aux victimes aussi.
Un consensus se dessine autour d'un renvoi symbolique d'une journée. Bernard Préna, barbe et cheveux blancs, la démarche lente, est d'accord pour que son procès ait lieu le plus vite possible. J'ai entendu la souffrance de ces personnes pour lesquelles je suis coupable, dit-il. Des mots auxquels réagit Anthony Gour, parti civil. Il a été abusé entre l'âge de 8 et 10 ans.
Bah, qu'ils le reconnaissent, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais ça n'effacera jamais ce que j'endure encore aujourd'hui. Et j'ai hâte malgré tout de pouvoir m'expliquer avec lui. Ouais. Je vais lui montrer que je me bats en l'occurrence. Et que même s'il m'a mis plus bactère avec ses actes, et ben que je continue à me battre aujourd'hui. Voilà.
Le tribunal accorde ce renvoi d'un jour. Personne ne veut attendre au-delà de demain matin. Trop de temps a déjà passé. Au palais de justice de Lyon, Corinne Audouin, France Inter.
Et avant que la justice des hommes ne se prononce, l'Église a pris contre Bernard Préna la sanction la plus lourde possible au sein de l'Église. Il a été déchu de son statut de prêtre, réduit à l'état laïque. Les affaires de pédophilie, c'est une des raisons pour lesquelles la question du célibat des prêtres revient régulièrement dans le débat. Et sur cette question, voici que l'ancien pape Benoît XVI sort du silence et embarrasse très certainement son successeur. « Je ne peux pas me taire », écrit Benoît XVI dans un livre qui sort après-demain en France. Bonjour Bruce de Galzin.
Bonjour.
L'actuel pape François envisage d'autoriser des hommes déjà mariés à devenir prêtres dans une région très précise, hein, l'Amazonie, où l'on manque cruellement de prêtres. La mesure devrait être officialisée dans les semaines à venir. Et Bruce, Benoît XVI publie un livre dans lequel il s'élève très fermement contre cette réforme.
Ah, Benoît XVI appelle tous les évêques, prêtres et laïcs à ne pas se laisser impressionner par les mises en scène théâtrales, les mensonges diaboliques, écrit-il, les erreurs à la mode qui veulent dévaloriser le célibat des prêtres. Il s'oppose à l'ouverture du synode des évêques sur cette question il y a 2 mois et remet en cause les arguments de ceux qui affirment que le célibat n'est arrivé que tard dans l'histoire de l'Église. Même dans l'Église ancienne, écrit-il, les hommes mariés ne pouvaient recevoir le sacrement de l'ordre que s'ils s'étaient engagés à respecter l'abstinence sexuelle. Pas d'ouverture donc, sinon ce serait une catastrophe pastorale.
Alors Bruce, est-ce que cela signifie que la guerre des papes, redoutée au moment de la démission de Benoît XVI, a bien lieu ?
Ah bah Benoît XVI s'en défend, mais c'est pourtant bien ce qu'il fait, lui qui il y a 7 ans s'engageait à une obéissance et une déférence inconditionnelle envers le nouveau pape. Alors, il est vrai que François n'a pas encore pris sa décision finale sur l'ordination de diacre permanent. Benoît XVI cherche donc à influencer son successeur qui, jusque-là, a résisté à la frange conservatrice du Vatican. Elle est emmenée par le cardinal Sara, actuel ministre de François, et qui a co-signé le livre de Benoît XVI. Plusieurs vaticanistes estiment que ce dernier est instrumentalisé et qu'il faut définir clairement le rôle et les droits du pape émérite. Pas de commentaire officiel du Vatican pour l'instant.
Et le livre sort après-demain dans sa version française ici aux éditions Fayard. Il aura pour titre « Des profondeurs de nos cœurs ». Nous étions avec Bruce de Galzin en direct de Rome. Alors on a vu ce matin au tribunal de Lyon que la mobilisation contre la réforme des retraites avait encore des effets très concrets. Néanmoins, cette mobilisation va-t-elle baisser en intensité maintenant que le gouvernement a fait la concession que les syndicats réformistes attendaient, l'âge pivot est mis de côté, le temps de discuter collectivement du financement de cette réforme. Un chiffre, ce matin, le taux de grévistes tombé à son plus bas selon la direction de la SNCF, 4,3% et moins d'un quart des conducteurs mobilisés. Alors à propos de cette concession sur l'âge pivot, selon les partis politiques, on parlera de compromis ou de recul. La droite a trouvé son angle d'attaque. Le gouvernement cède et présente une réforme qui n'est pas financée. Argument entendu ce matin au Sénat où beaucoup de personnalités de droite étaient réunies. François Baroin, Dominique Bussereau, Renaud Muselier qui préside les associations des villes, des départements et des régions de France présentaient leurs vœux. Reportage France Inter, Maxence Lambrecq.
Bonne année à toutes et à tous.
François Baroin n'ose pas aller sur le terrain des retraites, mais ses collègues s'en chargent. Éric Woerth, président de la commission des finances à l'Assemblée, et Roger Karoutchi, sénateur LR.
On marche sur la tête hein, quand même. On se pose des questions fondamentales dans la dernière ligne droite. C'est une énorme erreur au début d'appréciation du système des retraites lui-même.
Non mais on n'a jamais vu ça nulle part. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin, attends, c'est juste 320 milliards, hein. On n'est pas en train de parler de 2 francs 6 sous. On ne veut pas attendre. Je ne comprends pas que le gouvernement ne reporte pas le débat au Parlement après un accord éventuel de la conférence de financement.
Le patron de la région Normandie, Hervé Morin, s'inquiète lui des conséquences économiques de cette crise.
Tout ça pour ça. On aurait pu s'épargner 30 jours de grève et on aurait pu s'épargner des pertes absolument gigantesques. Moi j'entends des restaurateurs me disant c'est moins 60% de chiffre d'affaires. Moi j'entends des commerçants me disant je vais mettre la clé sous la porte parce que je suis après les gilets jaunes. La double lame, elle m'amène là.
Et cette droite encore bien implantée dans les territoires avec 80 000 élus espère tirer profit de cette grève lors des municipales dans 2 mois.
Et au-delà du financement, les négociations se poursuivent sur le fond de la réforme. Les avocats avec la ministre de la Justice, les profs ce soir avec celui de l'éducation. Et puis la question des toutes petites pensions. Plus aucun retraité ne touchera moins de 1000 euros, promet le gouvernement, qui en fait un argument pour sa réforme, présentée comme un projet social. Alors la question clé, Hélène Philly, c'est qui aurait droit à cette retraite minimum et sous quelles conditions ?
Alors on en a le détail dans l'article 40 du projet de loi. Ce montant de retraite minimum sera de 1000 euros net dès 2022 et jusqu'à 85% du SMIC en 2025, voire plus en fonction des négociations qui s'ouvrent. Il y a une condition importante, que la carrière soit complète, c'est-à-dire avoir cotisé 43 années pleines, 516 mois, et pour valider un mois, il faudra justifier d'au moins 50 heures payées au SMIC. Ceux qui profiteront le plus de la mesure sont les artisans commerçants et les exploitants agricoles. Ils ont souvent de plus petites retraites que les salariés du privé, notamment à cause du plus faible montant de leurs complémentaires. Pour les agriculteurs, le système serait doublement avantageux. Les cotisations seraient moins élevées et la retraite meilleure pour plus de 40% d'entre eux, selon l'avant-projet de loi. Les salariés travaillant à temps partiel réduit y gagneraient aussi. En revanche, pour quelqu'un qui a travaillé au SMIC dans le privé toute sa vie, le gain sera infime. Le minima actuel atteint 973 euros net par mois et se rapprochera déjà des 1000 euros à l'horizon 2022.
À propos des accusations de violence policière lors des manifestations contre cette réforme des retraites, une enquête pour violence est ouverte après qu'une manifestante a été frappée à coups de matraque à Paris la semaine dernière. C'est le 40e jour de mobilisation. Le nombre de trains et de métros en circulation est en hausse. La CGT, Force ouvrière notamment, appelle toujours à manifester demain. Et puis, est-ce qu'il faut faire un lien? Un entrepôt d'Enedis qui entretient le réseau électrique a été incendié près de Grenoble. 11 véhicules détruits cette nuit. Et selon nos confrères de France Bleu Isère, l'incendie est revendiqué sur un site internet proche des libertaires et de l'extrême gauche. Site qui s'appelle Indie Media. L'enquête ne fait que commencer. C'est l'un des grands rendez-vous politiques de l'année et c'est dans 2 mois, les élections municipales. Les vacances de Noël passées, la campagne commence à Paris, on en reparle dans un instant. Anne Hidalgo est désormais officiellement candidate à sa propre succession. Et jusqu'au 15 mars, le premier tour, tous les jours dans ce journal, nous vous ferons vivre cette campagne avec nos confrères de France Bleu qui connaissent évidemment très bien les enjeux dans leur ville et les journalistes du service politique d'Inter qui connaissent là très bien aussi. Laurence Perron, comme promis, en titre, vous nous avez rejoint, c'est vous la première étape aujourd'hui, nous allons à Lille. Martine Aubry va-t-elle être élue pour un 4e mandat de 6 ans? C'est l'une des questions clés.
Oui, alors elle avait assuré Martine Aubry qu'elle ne briguerait pas un mandat de plus. Elle se préparait à s'occuper de sa famille et de ses petits-enfants, nous a-t-elle confié. Mais la situation inquiétante du pays et de sa ville l'a fait changer d'avis.
Je sens ici une vulnérabilité. Les gens ont peur de l'avenir. Et à partir de là, je me suis dit, il faut tenir les deux bouts. Il faut à la fois tenir la transition écologique et la justice sociale. Dans l'ancien monde, dont je fais partie, on n'est pas pour le ruissellement. Il n'y a pas des gens qui ne sont rien et des gens qui réussissent. Il faut créer l'envie de vivre ensemble.
Transition écologique et justice sociale, les deux axes de la campagne de Martine Aubry, c'est pas un hasard. Son véritable adversaire sera peut-être le candidat écologiste, justement.
Alors avant, il y a un autre adversaire de taille qui est Violette Spielboot,
oui.
Son ex-directrice de campagne. Alors on l'a retrouvée sur un petit marché populaire de l'île Sud, la tête de liste de La République En Marche. Elle est entourée de figures connues du quartier, notamment le très implanté Jean-Marie Lambrecht, qui lui pave le chemin. C'est un compagnon de route socialiste de toujours, qui a été exclu il n'y a pas longtemps lorsque ses accointances avec le parti présidentiel sont devenues trop visibles. Il assume, goguenard, ce n'est pas parce qu'on a fait les 35 heures qu'on doit rester 35 ans à la mairie. La candidate, elle, joue à fond la carte sécuritaire.
Bonjour, je suis candidate aux élections municipales pour être maire de Lille. Vous avez été dans quelle partie de l'île Sud?
Moi, c'est vers Wattignies.
Vous n'êtes pas trop inquiet pour les sorties, pour les enfants, la sécurité? Parce que ça doit être un petit peu difficile avec les transports. Vous la conduisez partout, j'imagine, votre fille?
Tout à fait.
Eh ben voilà.
Tout à fait.
Vous êtes obligée de la conduire. Tu as quel âge?
J'ai 12 ans.
Ah oui, à 12 ans, on doit pouvoir normalement laisser sa fille aller toute seule quelque part, en vélo. Mais là, c'est pas possible.
Non, c'est pas possible.
Alors on y vient, je vais essayer de bien lire les feuilles, hein, les lignes sur ma petite feuille. Le vrai adversaire d'Aubry, ce sera le candidat écologiste.
Et les écologistes qui forment de leur 21% aux dernières européennes se voient pousser des ailes. Stéphane Bally, leur tête de liste, s'est allié avec Génération de Benoît Hamon et ils quadrillent régulièrement la ville en porte-à-porte pour consolider leur socle en draguant surtout les étudiants.
Bonsoir, Maëlle et Sabine, nous sommes militants écologistes et nous passons pour les élections municipales.
Oui, bonsoir madame, j'ai déjà voté pour vous, donc j'ai pas besoin, vous inquiétez pas.
D'accord, alors, vous
voilà
savez
pour
que notre
cet écho
local
de la campagne du côté écolo. Les Insoumis, où en est-on?
Alors les Insoumis sont une vraie force ici. Julien Poix et Élodie Chloé font une campagne très active, mais force est de constater que depuis 2017, où ils faisaient 30%, les dernières élections les ont laissés un petit peu essorés à 11%.
Le Rassemblement National, Laurence, est fort dans les Hauts-de-France. Qu'en est-il à Lille?
A priori, c'est pas une vraie question ici. Dans les quartiers populaires, peut-être on craint un peu. Éric Catelin-Denu, élu d'opposition, espère toutefois profiter aussi de la dynamique nationale et de la colère sociale du moment.
Et puis la droite est désunie.
Alors officiellement, c'est le sénateur Marc-Philippe Daubresse qui va porter les couleurs LR. Mais la figure locale, c'est Thierry Pochet, qui ne décolère pas contre son parti et qui va se présenter de toute façon, ce qui pourrait faire éventuellement le jeu de Martine Aubry.
Laurence Perron pour les enjeux de cette campagne électorale et municipale qui commence à Lille. Ce week-end, Marine Le Pen a lancé la campagne du Rassemblement National, phrase clé de son discours. Notre volonté est de parvenir au pouvoir. Nous devons initier l'émergence d'une nouvelle génération. Il n'est pas de meilleure école que les municipales, dit Marine Le Pen. Autre signe que la campagne s'accélère, Anne Hidalgo s'est officiellement lancée à Paris. Elle est favorite, mais dans les dernières études d'opinion, 5 candidats sont au-delà des 10% d'intention de vote. La part d'incertitude est donc réelle. Et tous, là aussi, ont peint ou repeint leur programme en vert. Alors cette préoccupation écolo est-elle nouvelle? C'est là que Thomas Legrand sort ses bobineaux. Bonjour Thomas.
Bonjour Bruno.
Chaque lundi avec vous dans ce journal de 13h, une archive pour éclairer différemment l'actualité. Vous avez retrouvé, Thomas, des déclarations du premier candidat écolo à Paris, Brice Lalonde.
Oui, tous écologistes aujourd'hui, hein, tous les candidats de gauche et de droite rivalisent de propositions vertes et ventes pour les sortants, leur bilan écolo. On a une fâcheuse tendance, effectivement, à penser que c'est nouveau et que cette préoccupation s'est politiquement généralisée avec la prise de conscience du péril climatique et du réchauffement de la planète. Eh bien, c'est étonnant, on l'a oublié, mais à Paris, pour les élections municipales de 1977, c'était les premières élections municipales à Paris, il y a plus de 40 ans, l'écologie était bien présente avec les Amis de la Terre de Brice Lalonde. Et écoutez son argument, il est très actuel et c'est étonnant et assez désespérant quand on y pense, hein, puisqu'il constate que la prise de conscience a eu lieu, c'était en 77, donc la prise de conscience a eu lieu et qu'il n'y a plus qu'à agir.
Nous nous félicitons que tous les partis maintenant parlent d'écologie, mais s'ils parlent d'écologie, c'est vraiment parce qu'on s'aperçoit que ce que disent les écologistes préoccupe réellement la population que les partis font. C'est la majorité actuelle autour du président Pompidou qui a fait de Paris ce qu'il est. Les grandes tours, la défense, les autoroutes dans la ville et la rénovation qui expulse les gens de conditions modestes vers l'extérieur. Mais c'est pas pour autant qu'on va signer un chèque en blanc pour les partis de gauche ou l'union de la gauche, notamment si elle aussi, elle décide de faire des centrales nucléaires, des tours et des choses de ce genre-là, vous comprenez?
Elle a 43 ans donc.
Hein. Oui. À l'époque, on sortait de l'ère Pompidou qui, jusqu'en 74, voulait transformer, faut le rappeler, par exemple, le canal Saint-Martin en une autoroute urbaine. Au municipal de 77, les écolos ont quand même fait 10% à Paris. Ils étaient indépendants, donc c'était avant les Verts, ni droite ni gauche. Et écoutez, le même Lalonde, 6 ans plus tard, donc au municipal de 83, cette fois, il est sûr que ça va marcher. Hein. C'est l'horreur, puisque tout le monde, encore une fois, tout le monde se dit écolo.
Une gauche qui n'est pas géniale, c'est sûr, mais une droite qui n'est pas géniale non plus, c'est dramatique. Écoutez, nous écologistes, ça va assez bien, hein, parce qu'on est en pleine forme, le moral revient. Vraiment, il y a de plus en plus d'espoir, on va voir les écologistes à l'œuvre de plus en plus maintenant. Les écologistes sont indépendants, voilà.
Voilà, donc on va les voir à l'œuvre et tout, ils font 3% en 83. Et alors écoutez, on n'invente rien. Pour finir, vous connaissez le concept trouvaille de Laurent Berger, le pouvoir de vivre. Hein. On pensait que c'était nouveau, oui. Ça, le pouvoir de vivre. Bah écoutez Brice Lalonde en 83.
Ce qui est important, c'est pas simplement le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir de vivre, c'est-à-dire la capacité de faire les choses par soi-même, de ne pas avoir à dépenser, à condition que la vie soit organisée pour ça. Si par exemple on peut économiser l'énergie au lieu d'avoir à dépenser de l'électricité, on vit mieux, pouvoir de vivre plutôt que pouvoir d'achat. Ça, c'est la grande idée.
Voilà, tout se recycle.
Merci Thomas Legrand. Et demain, pour cette campagne des municipales, nous irons à Saint-Étienne. Après la Haute-Marne, un deuxième département repasse en partie à 90 km/h sur les routes départementales. C'est la Seine-et-Marne. Et le président de ce département, Patrick Septier, est notre invité. Bonjour Monsieur Septier.
Bonjour.
Alors, question très concrète. D'abord, combien de kilomètres repassent à 90 chez vous sur combien de kilomètres de réseau en tout?
Alors, nous souhaitons faire repasser 500 km sur à peu près 3200 km de route départementale.
Pourquoi repasser à 90 km/h sur cette partie-là du réseau?
Vous savez que la Seine-et-Marne est un département en grande partie rural, et une grande partie des habitants étaient pénalisés par le fait de revenir à 80 km/h. Et puis il y avait aussi un problème de cohérence sur un certain nombre de routes. On commençait à 90, on passait à 70, on passait à 80, on revenait à 90. Et en fin de compte, il y avait une lecture de la route qui devenait impossible et qui constituait un danger.
Et c'est une première étape, hein. Il y aura d'autres kilomètres de route qui passeront dans les mois à venir à 90. Alors, Monsieur Septier, je me souviens que fin août, vous étiez déjà l'invité de ce journal et vous nous expliquiez que ce serait très compliqué de passer à 90 parce qu'il y avait toute une série de conditions. Il fallait un terre-plein central, il fallait pas d'engins agricoles, il fallait pas trop de carrefours régulièrement. Finalement, vous y arrivez. Parce qu'à l'époque, les présidents de département disaient « on nous met des bâtons dans les roues, on veut nous empêcher de repasser à 90 ». Finalement, ça se fait.
Alors, ça se fait parce que, en fin de compte, il n'y aura pas de décret d'application à la loi. C'était une de nos craintes. On se disait, il va certainement y avoir des décrets d'application qui vont reprendre en partie les contraintes que vous évoquez. Et en fin de compte, il n'y en a pas. C'est pour ça que nous avons terminé les études sur l'accidentologie, sur le type de trafic, sur les vitesses constatées, la configuration de la chaussée. Et donc, toutes ces études terminées, nous pouvons saisir maintenant la commission départementale de sécurité routière et la préfecture de Seine-et-Marne, qui toutes deux donneront un avis consultatif. Et ensuite, nous pourrons repasser à 90 km à l'heure. Alors, il faut savoir que...
Si, juste, Monsieur Septier, si l'avis, c'est non, qu'est-ce que vous faites? Vous alors, y allez quand même?
Alors, il y a deux choses. D'abord, moi, je reste tout à fait ouvert à la discussion avec l'État pour éventuellement prendre en compte des propositions qu'il pourrait nous faire. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, ce sont des avis consultatifs. Donc, voilà. Et donc,
ça veut dire que s'ils disent non, vous y allez quand même.
Voilà. Sauf, enfin, bien évidemment, et je prendrai en compte éventuellement leurs suggestions, si ce sont des suggestions de bon sens.
Dernière question. Lorsqu'il avait annoncé le passage à 80, Édouard Philippe avait dit « Cette mesure permet d'épargner une vie par jour, 3 à 400 vies par an. Qu'allez-vous faire au premier accident qui arrivera forcément, inévitablement ?»
Alors, les routes que nous mettons, comme je vous le disais, il y avait des études, donc il y a pas plus d'accidents. Il y a autant d'accidents aujourd'hui qu'il y en avait quand c'était à 80. Ouais. Donc, le 80 n'a pas eu d'impact sur ces routes. Voilà, donc obligatoirement, il y aura des accidents. Et si on ne voulait pas donner la possibilité aux élus de revenir à 90, il fallait pas voter la loi. On peut pas dire on vote une loi et dire après aux élus, il faut pas l'appliquer.
Bien
donc,
noté.
La responsabilité sera obligatoirement partagée.
Bien noté, merci Patrick Septier. C'est fin mars le passage à 90.
Dès que les commissions ont rendu leur avis.
Merci beaucoup d'être intervenu sur France Inter. Et à propos de sécurité routière, cette tragédie hélas récurrente, un jeune homme de 25 ans qui se tuait au volant sur la nationale 7 entre Avignon et Salon de Provence la semaine dernière, sa voiture a percuté un platane au bord de la route. Est-ce qu'il utilisait son téléphone au moment de l'accident? En tout cas, il avait envoyé une vidéo sur le réseau Snapchat quelques minutes avant. Alors après l'accident, nos confrères de France Bleu Provence ont voulu en savoir plus sur l'attitude des conducteurs. Selon une étude publiée récemment par l'assureur AXA, 70% des conducteurs reconnaissent utiliser leur téléphone au volant. Écoutez ce témoignage très éloquent, un conducteur qui s'appelle Jawad. Le portable au volant, c'est pas juste un texto de temps en temps et pas qu'un peu.
Ah, tout le temps. D'ailleurs, je fais que ça. J'envoie des snaps ou je reçois des snaps, je consulte un petit peu les messages.
Bah, disons que c'est la notification. Dès qu'elle arrive, tu as envie de te tenir au courant tout de suite. Je suis constamment en train de le consulter. Dès qu'il y a une notification, je vais l'ouvrir. Quand c'est des vidéos, je reste longtemps. Enfin, je la regarde jusqu'à la fin. Quand je suis concentré dessus, bah, automatiquement, je perds toute la vigilance de la route. Bah, j'en ai pris conscience récemment. Je regardais la vidéo, si vous voulez. Je regardais plus la route. Je regardais le snap. Et tout d'un coup, il y a eu un virage. Et je me suis retrouvé à aller à continuer tout droit alors que je devais être en train de tourner. Heureusement que j'étais tout seul parce que j'étais vraiment en voie de droite et je me suis retrouvé complètement sur la voie de gauche et je m'en suis même pas rendu compte. Je regarde moins. Maintenant, c'est juste un coup d'œil, c'est tout maintenant.
Bon, j'espère. Propos recueillis par Laurent Grollet pour France Bleu Provence. Voilà une question de société cruciale, celle des décrocheurs scolaires. On estime chaque année qu'entre 150 et 230 000 mineurs, 16-18 ans, sont en grande difficulté, plus à l'école, pas en formation, pas d'emploi. Que faire pour eux? Le Premier ministre doit donner des réponses cet après-midi. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Claire, vous connaissez déjà les solutions qui seront mises en avant.
Oui, dès la rentrée prochaine, ces jeunes qui sortent des écrans radars avant leur majorité seront soumis à une nouvelle obligation de formation jusqu'à 18 ans. Et cela passera, doit annoncer Édouard Philippe cet après-midi, par la mise en place d'une nouvelle plateforme de suivi désormais en temps réel de ces décrochages scolaires sous l'égide de l'Éducation nationale avec de nouveaux moyens humains. Pour faire simple, lorsqu'un jeune quitte le collège par exemple, immédiatement ce sont les missions locales connectées à la plateforme qui seront alertées, qui auront toutes les informations sur le collégien en question et surtout le devoir d'aller le chercher jusque dans la rue s'il le faut, avec de petites brigades dédiées. Voilà ce que détaille le rapport remis tout à l'heure au Premier ministre. L'idée, c'est de très rapidement inscrire ces jeunes dans une formation ou en apprentissage. 100 millions d'euros seront fléchés sur la formation de ces décrocheurs, annonce l'exécutif, mais ce ne sera pas si simple, préviennent notamment les éducateurs spécialisés. Certains jeunes jeunes tombés dans de petits trafics gagnent déjà illégalement leur vie. D'autres sont en très grande pauvreté et sans moyen de locomotion. Le rapport propose donc une cagnotte pour des aides en nature au cas par cas, mesure absolument cruciale. Martel, l'une de ses auteurs, députée de Seine-Saint-Denis, à étudier, répond l'entourage du Premier ministre.
Merci Claire Chaudière. L'actualité internationale et ses chiffres, 89 morts. À nouveau, une attaque djihadiste laisse un bilan très lourd au Sahel. Cette fois, c'est le Niger qui est touché. Face à la multiplication des attentats, quelle réponse ? Emmanuel Macron réunit aujourd'hui à Pau les représentants des 5 principaux pays concernés par ce défi dans le Sahel. La légitimité des 4500 soldats français de la force Barkhane est régulièrement remise en cause. Illustration avec ce reportage de Fanny Noaro au Burkina Faso. Rencontre notamment avec un militant qui parle au nom des Sahéliens. Nos différentes nations, dit-il.
Nos différentes nations sont des nations qui n'existent pas aux yeux de la France.
À l'université de Ouagadougou, un groupe d'étudiants se rassemble chaque jour pour débattre de l'actualité. À sa tête, le militant panafricaniste Lianwe Bayala. Pour lui, il n'y a pas de sentiment anti-français au Burkina Faso, mais une critique de la politique française.
Le G5 Sahel, c'est une réponse de la France par rapport à la sécurisation de ses intérêts. Dans la sous-région, ce n'est pas une stratégie dont le leadership est porté et assumé en premier par les chefs d'État et les populations du G5 Sahel. C'est ce pourquoi le G5 Sahel ne passe pas.
Cet avis partagé par une partie de la population met le pouvoir burkinabé dans une position délicate, selon le chercheur Thomas Ouedraogo, alors que dans quelques mois doit se tenir ici l'élection présidentielle.
Ils sont pris entre deux feux, si vous voulez. D'une part, la France qui a les moyens de se retirer, et de l'autre, l'opinion nationale qui rejette tout ce qu'il y a comme relation avec les forces étrangères, dont on estime qu'elles attirent aussi l'ennemi. C'est simplement une volonté d'indépendance qui est affichée, mais il faut encore avoir le moyen de cette volonté-là.
Si beaucoup n'attendent rien de nouveau de cette réunion, ils espèrent néanmoins qu'elle clarifiera les rôles de chacun dans ce G5 Sahel. À Ouagadougou, Fanny Noiro, France Inter.
G5 Sahel qui se tient donc à Pau cet après-midi. Comment lutter contre les déserts médicaux à la campagne, tout particulièrement contre les personnes, pour les personnes âgées? Une expérience va se mettre en place dans 43 maisons de retraite du Puy-de-Dôme, dans la commune d'Aigueperse notamment. Un cabinet dentaire mobile installé dans une camionnette. Emmanuel Moreau, la camionnette va directement dans les EHPAD.
Ils seraient 70% à avoir besoin de soins bucco-dentaires, mais ils ont aussi un autre problème, de grandes difficultés pour se déplacer. Le cabinet de Martine Dallel est à 100 mètres seulement de l'EHPAD d'Aigueperse. Une proximité qui ne change pas grand-chose.
J'interviens à l'EHPAD d'Aigueperse régulièrement, mais on est confronté au fait que on n'a pas de matériel. Alors si c'est pour aller constater une blessure, ça ne va pas nous poser de problème, effectivement. Mais si c'est un soin, ne serait-ce qu'une dent à meuler, c'est problématique. Si vous ne pouvez pas déplacer le patient, là, nous aurons la possibilité de le faire. Aisément.
Car ce sont les dentistes du coin qui iront dans les EHPAD soigner des patients qu'ils connaissent déjà la plupart du temps. Éric Lenfant, le président de l'Union régionale des professionnels de santé.
On les encourage d'un point de vue logistique, d'un point de vue matériel, technologique, haute technologie, puisqu'on a 50 innovations. On peut même aller avec des mallettes très légères, moins de 17 kilos, ultra perfectionnées, directement au chevet du patient qui ne peut vraiment pas bouger. Et puis, on propose une assistante dentaire pour les aider à intervenir sur place.
L'expérience ne commencera réellement qu'à la mi-janvier, le temps d'équiper la camionnette d'une porte et d'un chariot élévateur pour les personnes à mobilité réduite.
Et si Renoir, Courbet ou Gauguin publiaient sur Instagram chaque lundi pendant un an, un artiste et résident Instagram grâce au musée d'Orsay. Il s'appelle Jean-Philippe Delhomme. Chaque lundi, donc, il va publier un dessin relatif à l'un des tableaux du musée d'Orsay sur Instagram. C'est une manière, Isabelle Pasquier, d'attirer un public plus jeune au musée et de regarder les œuvres autrement.
Imaginez à quoi aurait ressemblé le compte Instagram de Courbet et les commentaires entre les comptes Insta de Van Gogh et de Gauguin. C'est le principe de cette résidence d'artiste avec Jean-Philippe Delhomme, artiste peintre féru d'histoire de l'art.
Et l'idée, c'est d'imaginer comment est-ce que ça aurait été si les artistes de la fin du 19e siècle avaient eu des comptes Instagram. Et c'est une manière de rendre peut-être certaines de ces peintures plus accessibles ou d'entraîner les gens à les regarder d'une autre manière en faisant ces correspondances entre la manière dont on vit aujourd'hui, dont on montre ce qu'on fait, dont on communique avec celle des artistes du 19e siècle.
Et l'on s'arrête devant l'un des tableaux qui inspire Jean-Philippe Delhomme. C'est l'atelier du peintre, signé par Basile en 1870.
Il a peint lui-même son propre atelier. C'est très intéressant parce que finalement, c'est une sorte de métaphore très anticipée d'Instagram. Le peintre est au centre, en train de montrer son tableau. C'est le peintre et ses followers. Un follower qui fait un commentaire. Il y a un follower qui regarde sans rien dire. Et donc voilà, ça, c'est les peintures qui m'inspirent et dont je vois des correspondances avec notre monde aujourd'hui.
Mais pas sûr que Gauguin, dans ces îles loin de la civilisation occidentale, aurait été aujourd'hui un accro narcissique à son compte Instagram.
Avant la météo, cette dernière minute, selon nos confrères de France Info, la grève est reconduite à la RATP jusqu'à jeudi minimum.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Sébastien Léas. La perturbation arrivée hier continue de glisser sur le pays et donne un ciel couvert entre les côtes de la Manche, la Vendée, le Poitou, jusqu'en Champagne-Ardenne et en Lorraine. Cette perturbation est peu active et les pluies sont faibles, touchant essentiellement la Bretagne, la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France. Sur le quart nord-ouest, le vent est également soutenu avec des rafales soufflant entre 80 et 90 km par heure sur la Bretagne. En soirée, le vent va d'ailleurs monter d'un cran et des pluies plus régulières vont également aborder la Bretagne. Sur le reste du pays, le temps est plus calme. Entre l'Aquitaine, les Savoies et l'Alsace, le soleil est atténué par un voile de nuages élevés. Plus à l'est et au sud, ce voile nuageux est encore plus dense. Entre le delta du Rhône et la Côte d'Azur, le ciel est également peuplé d'entrées maritimes. Les températures sont en légère hausse, variant entre 7 et 13 degrés en général, avec des pointes jusqu'à 15 degrés autour de la Méditerranée.